l'université pour cette soirée exceptionnelle avec Monsieur Boris Cyrulnik. L'Institut français, ça n'est pas simplement un lieu où l'on apprend le français, c'est un lieu aussi d'échange, de collaboration, de partenariat, de réflexion. C'est un lieu où se créent des projets, où ils se poursuivent. C'est un lieu où vous serez toujours les bienvenus. Et c'est avec un immense plaisir que je cède la parole afin que nous commencions cette table ronde. Merci pour votre présence. Merci pour cette audience nombreuse. Et je suis sûre passionnée par tout ce qui va se dire.
Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició dels debats d'educació, tots els que ens acompanyeu en aquest auditori, però també a tots els que ens esteu seguint a través de video streaming. Per començar, hem d'agrair a l'editorial Gedisa la seva col·laboració en l'acte d'avui i també a l'Institut Francès de Barcelona, que ens permet doncs, gaudir d'aquest magnífic auditori, i així mateix a l'obra social de la Caixa, que també ens donen el seu recolzament per aquest acte. Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Debats d'Educació té com a objectiu principal oferir un espai de debat obert a la participació de la ciutadania en general i també de la comunitat educativa en el seu sentit més extens. És un espai que vol servir també per la sensibilització dels principals actors socioeconòmics, polítics, de la cultura del nostre país. En un context de canvi accelerat com el que ens toca viure, debats d'educació pretén abordar, com no, doncs, temes d'actualitat, però també intenta identificar qüestions de fons que ens cal no perdre de vista per poder mirar, diguem-ne, doncs, amb confiança l'educació del futur. En la seva trajectòria, que ara ja doncs, és de més de 12 anys, per tant, debats d'educació diríem que és en aquest sentit un projecte consolidat, ha mantingut l'ambició d'incorporar la perspectiva de persones del nostre context més immediat, persones expertes en l'àmbit educatiu, però també ha mantingut l'interès d'enriquir el debat aportant el contrast que pot venir d'altres disciplines, com en el cas d'avui, i d'òptiques i d'experiències que podem identificar en el context internacional. Aquesta, de fet, va ser la intenció darrera en l'última edició dels debats d'educació en què Nancy Madden, la presidenta cofundadora de la Fundació Success for All, ens va ajudar a entendre de quina manera podem contribuir a augmentar l'èxit escolar, especialment en els entorns més desafavorits i singularment esbrinar en aquest cas com s'hi podia contribuir des d'una aproximació molt específica en aquest cas a l'aprenentatge cooperatiu. Aquest focus en l'èxit en els entorns més desafavorits de fet és un tema sobre el que avui tornarem. Aquesta intenció és també amb la que reprenem les qüestions que es plantegen en debats com el d'avui en els seminaris web que portem a terme algunes setmanes després del debat per continuar, en certa manera, la discussió i obrir-la a la reflexió d'altres experts i, encara més, si és possible, a la participació en general, de la qual sigui dit de passada, doncs estem molt contents i us convidem, de fet al final de l'acte us convidaré doncs, tots també a sumar-vos-hi si us ve de gust. No? El debat que us proposem avui manté aquesta mateixa ambició de contrast, d'aproximació des d'òptiques diverses a la complexitat dels principals desafiaments que enfronta el nostre sistema educatiu a dia d'avui. Reprenem el repte que suposa educar en entorns que pateixen, que parteixen de situacions de major desavantatge, i en aquest cas ho fem per intentar comprendre com hi podem contribuir des de l'òptica de la resiliència. I és clar, quan vas a la base d'aquest concepte, hi trobes el nostre convidat d'avui, el professor Silúrnic, i és per això que estem tan contents que ens acompanyi. Però com que de fet el que heu vingut a fer és sobretot escoltar-lo amb ell, el que farem doncs serà de seguida donar-li la paraula, però abans serà l'Ismael Palacín, que és el director de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà el nostre ponent i també la qüestió que li hem plantejat, que és com construir centres educatius resilients per afavorir l'aprenentatge de tot l'alumnat. Ismael.
Moltes gràcies, Josep Maria, gràcies a la directora de l'Institut Francès, al director de GEDISA i per descomptat al nostre ponent que ha estat tan amable, no només de, se'm sent? Sí? No només de venir fins a nosaltres, sinó de preparar-se monogràficament a un tema que ens interessa moltíssim des del món educatiu. Breument, per molts de vosaltres, moltíssims de vosaltres, sou lectors, sou, jo diria, seguidors, diria gairebé fans de l'obra del Boris, i no caldria presentació, però fem les coses bé. I molt breument, en quatre línies, diria en Boris Cyrulnik, que és neuròleg, psiquiatre, psicoanalista, és un dels fundadors de l'etologia humana, professor de la Universitat de Bar, a França, i responsable d'un grup de recerca en etologia clínica a l'Hospital de Toulon. També autor de molts llibres, i especialment avui us recomanem el darrer que ha publicat amb GEDISA, Les almes herides, i que justament està aquí a Barcelona també per presentar-lo, encara que avui no parlarem específicament d'aquest llibre. És membre del patronat de la Coordinació Francesa pel Decenni de la Cultura de la Pau i de la No Violència, president del Centre Nacional de Creació i de Difusió Culturals de Chateaubalon i membre directiu del programa Decenni de les Nacions Unides. La seva feina com a investigador, com a creador, però també enormement compromès com a divulgador, ha tingut una rebuda extraordinària en l'àmbit de l'acció social, en l'àmbit de la intervenció social i comunitària i també en l'àmbit educatiu, encara que encara no té un llibre, esperem que potser el proper sigui d'això, que parli específicament de resiliència en l'àmbit educatiu. En la qüestió educativa, sabeu que durant molts anys i en gran part encara s'ha associat l'escola i l'ensenyament a purament les seves funcions instructives, i d'alguna manera l'important era ensenyar, l'important era instruir, l'important era transmetre uns continguts, i ningú es preocupava molt de quines eren el que després s'ha dit les condicions d'educabilitat, la teachability, és a dir, les condicions en què l'alumne pot aprendre i les condicions en què un mestre, una aula i potser un centre poden millorar aquelles condicions d'aprenentatge als alumnes. Sempre diem que l'alumne no és un ser escèptic, sinó que ve amb una motxilla, amb un bagatge passat, biogràfic, familiar, també comunitari, que a vegades pot ser un fort potenciador de l'esperit d'aprenentatge, però a vegades també suposa una dificultat que certes concepcions de l'educació havien volgut ignorar o havien volgut externalitzar, havien volgut entendre que no era feina seva. La resiliència va suposar, us deia abans, un canvi de concepció molt important en molts àmbits, però l'educació també, és a dir, passem del paradigma més instructiu després de parlar d'alguns elements motivacionals, a parlar ja de ple en majúscules del que seria l'educabilitat. És a dir, passem d'entendre un model, per dir-ho així, de carències, de l'alumne té una sèrie de carències que podem compensar, a passar a un paradigma diferent que es basa en les capacitats. D'això, precisament, és del que volem parlar avui, de com el mestre, l'aula, el centre, i potser amb el suport de la comunitat, poden incrementar, basat en el concepte de resiliència, aquestes condicions d'educabilitat. Per això us animem a partir d'ara ja encendre el vostre cervell creatiu i propositiu a pensar aquelles preguntes, aquelles intervencions, aquelles propostes, aquelles aportacions que després de la conferència de Boris Cyrulnik us animem a que compartiu amb nosaltres. Els que sou aquí, doncs, aixecant la mà amb el micròfon, els que ens esteu seguint per streaming, doncs, o també alguns dels que esteu aquí, si feu servir Twitter, us convidem a fer servir el hashtag debatseducació. Totes les aportacions i preguntes, i mirarem de recollir-les i algunes mirarem també de compartir-les aquí en directe. Moltes gràcies, si us plau, endavant.
Merci de me présenter avec autant d'indulgence. Alors je vais essayer de faire une relation entre les théories et les expérimentations de la résilience et l'impact que ça va avoir sur l'éducation. La définition de la résilience, il ne peut pas y avoir plus simple et plus logique. Comment se remettre à vivre le moins mal possible, le mieux possible, après un traumatisme psychologique? Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est de découvrir scientifiquement, biologiquement, psychologiquement, socialement et culturellement, quelles sont les conditions, les facteurs qui vont permettre la reprise d'un processus, d'un nouveau développement après un traumatisme. Alors ça, il faut une démarche scientifique et surtout, il faut associer des disciplines différentes pour répondre à cette question. Alors c'est ce que je vais essayer de faire pendant les 5 heures que vous m'avez accordées. Alors, je propose de faire le schéma suivant. Avant le traumatisme, l'événement qui nous traumatise, pendant l'événement, la structure du traumatisme, et après l'événement, qu'est-ce qu'on doit faire pour déclencher un processus de résilience? On va passer quelques minutes avant le traumatisme, c'est l'acquisition de facteurs de protection. Principalement 2 facteurs de protection, c'est-à-dire que chez le bébé préverbal, il faut que la niche sensorielle affective soit organisée autour du bébé pour qu'il puisse acquérir au moins 2 facteurs de protection. Pas résilience, protection. Premier facteur de protection, l'acquisition d'un sentiment d'attachement confiant. Cet attachement confiant s'imprègne biologiquement dans le bébé si la niche sensorielle est stable et structurée au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire vers 18e, 20e mois, et que si cette acquisition d'un sentiment de confiance en soi commence pendant la grossesse. Parce qu'on sait que si les mères sont stressés pendant la grossesse, le bébé acquiert une vulnérabilité neurologique pendant la grossesse. Donc, ça veut dire que si on peut sécuriser la mère, parce que le mari est gentil, parce que la famille est solide, parce que la culture est en paix, parce qu'il n'y a pas de précarité sociale, l'enfant, à ce moment-là, acquiert un facteur de stabilité affective et un sentiment de confiance s'imprègne biologiquement dans sa mémoire et on le voit maintenant en neuroimagerie, un enfant sécurisé circuite des neurones, des traces qui permettent de lui apprendre à réguler ses émotions. Et le deuxième facteur, c'est l'aptitude à mentaliser. C'est-à-dire qu'un bébé peut mentaliser avec des sourires, avec des gestes, avec des mimiques, et plus tard avec des dessins, avec des petits scénarios comportementaux. Et avant la parole, un enfant peut déjà mentaliser. Et s'il a appris, s'il a acquis ces 2 facteurs de protection, quand un malheur de la vie lui arrivera parce que il n'y a pas de vie sans épreuve, il n'y a pas de vie sans douleur, il n'y a pas de vie sans souffrance. Un enfant renforcé par ses interactions précoces, il va souffrir mais il gardera dans sa mémoire le sentiment biologiquement tracé dans son cerveau. Je peux appeler au secours, je sais que quelqu'un va m'aider, je garde la confiance en moi, puisque je sais ce qu'il faut faire pour me faire aider. Deuxième facteur, deuxième chapitre, pendant le trauma, pendant l'agression. Les enfants qui ont acquis ces facteurs de protection vont souffrir en cas de malheur, mais ils gardent l'espoir au fond d'eux et ils vont mieux se défendre. Pendant l'agression, si l'agression est au loin, les enfants sont moins traumatisés que si l'agression est auprès. Malheureusement, la plupart des agressions sont dans la famille ou près de la famille. Surtout maintenant en Occident, il n'y a presque plus d'orphelins, mais il y a beaucoup d'enfants en difficulté développementale parce que leurs parents sont malheureux, parce qu'il y a un conflit conjugal, parce qu'il y a une précarité sociale, parce qu'il y a une guerre, et les enfants se développent dans une niche sensorielle insécurisante et ils n'acquièrent pas ces facteurs de protection. Alors, la plupart de ces facteurs, la plupart de ces agressions sont donc dans la famille ou près de la famille. Donc, elles agressent beaucoup plus parce que non seulement l'enfant est agressé, mais en plus, il est agressé par celui dont il attendait la protection, c'est-à-dire qu'il est agressé et trahi. Deux agressions. Donc, c'est une cascade d'agressions. Et là, la résilience sera plus difficile. Mais il faut tenir compte des facteurs de protection acquis avant le traumatisme. Si le lien avant l'événement traumatisant, si le lien a été bien tissé, l'enfant, l'adulte, l'adolescent va souffrir, mais il va se débattre, il va combattre, et il va savoir ce qu'il faut faire pour se remettre à vivre le moins mal possible. C'est la définition de la résilience. Si le lien n'a pas été tissé avant, n'a jamais été tissé avant, le cerveau est mal formé. Lorsqu'on a fait des scanners chez les petits-enfants roumains abandonnés pendant les premières années de la vie, ils avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux. Tous. Facile à voir, même au scanner de ville. Et le lobe préfrontal ne pouvait plus inhiber le socle neurologique de la frayeur, qui est une amande de neurones, qui est à la base du cerveau. Ce qui veut dire que pour ces enfants, tout était une alerte, tout était une information, puisqu'ils ne pouvaient plus réguler neurologiquement l'alerte. On leur disait bonjour, ils avaient peur. On leur souriait, ils s'auto-agressaient, ils se tapaient la tête par terre, ils se mordaient. Parce que pour eux, tout était une agression, parce que la carence affective précoce avait détruit les deux lobes préfrontaux. Alors là, la résilience est possible, mais elle sera plus difficile. Et si l'isolement affectif a été long et intense, la résilience sera très difficile. Troisième possibilité, le traumatisme développemental. Quand le traumatisme est aigu, on est bien développé, on a un traumatisme aigu. Si après on est bien soutenu, la résilience sera facile. Si on a été isolé, tout va devenir un traumatisme pour nous, puisqu'on tout est une agression. Et si en plus on n'est pas soutenu après le traumatisme, la résilience sera très difficile. Et si le lien a été mal tissé, alors à ce moment-là, il faut que des professionnels de la petite enfance interviennent pour déclencher un processus de résilience. C'est possible, mais il faudra travailler. Alors que, par exemple, pour les orphelins bien développés dans leur famille, un malheur arrive, la guerre, les parents sont tués dans un accident de voiture, un malheur arrive, ils sont rapidement soutenus. La résilience, c'est du gâteau. On peut dire ça en espagnol ? La résilience, ils repartent tout de suite. La résilience est facile. S'il n'y a pas eu de lien, si le cerveau est abîmé et s'il n'y a pas de soutien, la résilience sera très difficile. Troisième chapitre, après la résilience, encore une fois, après le traumatisme, encore une fois, deux mots à retenir, soutien et sens. Il faut qu'il y ait un soutien affectif pré-verbal. Je suis là, tu parleras quand tu voudras, je suis là, tu peux compter sur moi, et un jour tu auras envie de parler, un jour tu auras envie de comprendre ce qui t'est arrivé, je suis à ta disposition. Si tu veux parler maintenant, je t'écoute. Si tu veux parler plus tard, on parlera plus tard. Mais il faut qu'il y ait une présence sécurisante. Or, tous les éducateurs ne sont pas sécurisants et tous les psychothérapeutes ne sont pas sécurisants. Et là, le psychothérapeute et l'éducateur sécurisant, c'est un contrat qui se passe, une transaction qui se passe entre l'enfant et l'éducateur et le psychothérapeute. Un psychothérapeute peut très bien être sécurisant pour un enfant et insécurisant pour un autre enfant qui n'a pas besoin de ce style relationnel. Donc c'est une transaction entre l'enfant et le psychothérapeute ou l'éducateur. Et certaines transactions marchent bien et d'autres ne marchent pas. Alors, donc, cette nuance est importante parce que ça permet de comprendre qu'il y a un travail à faire dans la durée, parfois très facile, parfois difficile. Et le dernier mot de la résilience après le traumatisme, c'est la contrainte à donner sens à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire comprendre ce qui nous est arrivé pour maîtriser l'agression. Si on est laissé seul, on va répéter, et on va renforcer la mémoire du traumatisme. Mais si on est soutenu et si on peut faire un travail de parole, on va remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé, et là, on va travailler à déclencher un processus de résilience. C'est facile. Et là, non seulement souvent c'est facile, mais ça devient intéressant, parce qu'on comprend enfin et on fait quelque chose de sa blessure. Et la plupart des artistes, notamment les cinéastes, les écrivains, ont souvent été des enfants blessés qui ont transformé leurs blessures en œuvres d'art. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les musées et imaginez qu'on arrive à supprimer le malheur de la condition humaine. Vous fermez tous les musées. Il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de romans, il n'y aura plus de pièces de théâtre. Mais alors, par bonheur, il y a des malheurs. Mais à condition, le malheur est inévitable, personne n'y échappe. Mais si on a acquis les facteurs de protection et si intentionnellement notre culture a proposé le soutien et le sens, on va pouvoir déclencher un processus de résilience. Mais ça veut dire donc que on est responsable de ce processus. Les pays d'Europe du Nord ont travaillé ce que je viens de vous proposer et ils ont fait des réformes politiques pour améliorer la condition des enfants au cours des premières années. Des congés parentaux très longs, 6 à 9 mois pour la mère, 3 ans à 5 ans pour les deux parents. Et ils retardent l'entrée à l'école. Et le résultat, c'est qu'à 15 ans, ils ont les meilleurs résultats aux évaluations scolaires de l'UNESCO. Parce qu'ils ont, en ralentissant les enfants, ils leur ont donné confiance en eux. Et les enfants, les petits Finlandais où j'étais, ils sont très mauvais dans les petites années. En 2 ans, ils ont rattrapé leur retard et ils deviennent médaille d'or aux évaluations PISA. Alors que les Coréens ou les Japonais, pour eux, l'école est une forme de maltraitance, tellement ils font travailler les enfants de manière violente. 2 écoles, l'école du jour, l'école de la nuit, dans des caves. Une autre, les enfants ne peuvent pas dormir. Ils obtiennent d'excellents résultats à un prix humain exorbitant, suicide, dépression, troubles du développement. Ils obtiennent de bons résultats scolaires, moins bons que les Finlandais, mais à un prix humain excellent et très effrayant, alors que les Finlandais obtiennent de meilleurs résultats scolaires et ils ont diminué les suicides et les troubles psychiques de 50% en 10 ans. Donc on évalue, c'est scientifique, on peut faire une évaluation de cette évolution et politiquement, éducationnellement, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la protection des enfants. Et ça ne rend pas les parents malheureux. Quand les enfants vont bien, ça ne rend pas les parents malheureux. Alors, l'attachement qui permet de repérer les enfants et l'aptitude à la mentalisation, à la parole, au dessin, qui permet de repérer les enfants faciles à aider, l'attachement, ce n'est pas un os. L'attachement, c'est une relation affective. Ça veut dire que quand un enfant est maltraité, on a eu l'occasion, avec leur accord, d'observer des enfants maltraités chez eux. Ils sont évitants chez eux et certains sont sécures, confiants à l'école. Ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. Et quand on observe des différences de comportement stupéfiants et qu'on parle avec ces enfants, ils nous expliquent, ils nous disent « Mais l'école, c'est le seul endroit où on me parle gentiment. » C'est le seul endroit où on m'apprend des choses intéressantes. Je suis heureuse d'aller à l'école. Et pour illustrer ce que je vous propose, il y a une fille qu'on avait suivie chez elle. Elle était évitante parce que dans sa mémoire, elle attendait d'être maltraitée. Et elle était maltraitée chez elle. Donc elle attendait d'être maltraitée à l'école ou dans les familles d'accueil ou avec les éducateurs. Elle était toujours craintive. Et à l'école, ce n'est pas la majorité, mais ça existe. Elle était chef de classe. Ça existe en Espagne. C'était les enfants qui sont les leaders dans leur classe, tellement ils sont épanouis, ils sont gays. Et elle était excellente élève. Ce n'était pas du tout la même fille. Donc l'attachement, ce n'est pas un os. C'est plein d'espoir. Ça veut dire que quand on voit un enfant auto-agressé, qui s'auto-agresse, comme je l'ai vu en Roumanie, ou comme je l'ai vu dès qu'un enfant est abandonné, ces enfants-là, on a du mal à les aider, parce que si on leur parle gentiment, ils ont peur de nous, ils nous agressent ou ils s'agressent. Eh bien, si on rassure ces enfants, ils apprennent à nous aimer, et hop, ils rattrapent leur retard en un an ou deux, très rapidement. Alors, on peut voir apparaître des résiliences immédiates et non durables. Par exemple, je travaille à Toulon, qui est un port de guerre en France, et je travaille beaucoup avec les médecins militaires. Et la France est en guerre actuellement. Il y a 10 000 soldats qui sont en guerre, qui font la guerre. Et les guerres modernes, toutes les guerres sont dégueulasses. On peut dire ça en espagnol ? Toutes les guerres sont dégueulasses. Et les guerres actuelles, les guerres asymétriques, sont encore plus dégueulasses. Parce que les soldats mettent les enfants en première ligne. Et les soldats français, ils savent qu'il y a des explosifs autour de la taille. Et les soldats français tuent les enfants. Et ils rentrent chez eux ravagés, désespérés. Et il y a plus de morts par suicide. Après, quand ils rentrent chez eux, les soldats meurent plus par suicide qu'au cours du combat, parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils ont fait. Terrifiés. Et là, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques avec suicide. Et là, ce qui se passe, c'est que ces soldats qui ont vu et fait des horreurs, tuer des enfants, parce qu'ils savent que les enfants vont mourir. Ils ont des ceintures d'explosifs, ils vont mourir. Donc ils tirent sur les enfants meurent tout seuls, ou bien s'ils ne tirent pas dans les enfants meurent avec eux. Et parfois, les enfants n'ont pas d'explosifs autour de la taille, et les soldats ont tiré. C'est effrayant. Et ils rentrent avec des syndromes psychotraumatiques terribles, et se suicident beaucoup. On les entoure, on croit que la résilience est déclenchée. Et plus tard, 10 ans, 20 ans, arrive un événement dans leur vie qui rappelle ce qui est tracé dans leur mémoire. Et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique 10 ans, 20 ans plus tard. On croyait que le syndrome psychotraumatique était réglé. Il avait été mis de côté, il avait été enfoui et il n'était pas réglé parce qu'il n'avait pas été élaboré par la parole et par l'affection. Les soldats n'avaient pas travaillé, n'avaient pas remanié la mémoire, n'avaient pas parlé, n'avaient pas écrit, n'avaient pas cherché à comprendre. On les avait sécurisés, on ne les avait pas aidés. La sécurisation avait été momentanée et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique et la phrase qu'ils disent presque toujours, c'est « j'en souffre comme si ça venait d'arriver ». C'est la phrase qu'ils répètent très souvent. Donc il y a avant, il faut préparer la protection et on voit qu'il y a des facteurs de vulnérabilité acquis avant. Ceux qui ont été isolés, affectivement, j'en ai beaucoup parlé, quelle que soit la cause de l'isolement, mort de la mère, conflit conjugal, parce que même quand les parents sont en conflit entre eux, ils disent on n'a pas touché l'enfant. Eh bien, c'est faux. Quand les parents sont en conflit entre eux, c'est une agression pour l'enfant, parce qu'ils voient, ils entendent leurs parents crier, casser la vaisselle ou se battre, et les enfants ont peur. Ils sont terrorisés, ils sont traumatisés, même s'ils ne sont pas battus physiquement, ils sont quand même traumatisés. Mais parfois, la vie est difficile, et on voit qu'il y a des populations vulnérables, c'est ceux qui ont été isolés. Les célibataires sont vulnérables. Le mariage est un facteur de protection. Alors, et pourtant, le mariage, ce n'est pas toujours le paradis. Il y a toujours des... Parce qu'on a deux sexes différents, des valeurs différentes, des histoires différentes. Eh bien, les gens mariés ont une espérance de vie plus grande que les célibataires. Ils ont moins d'angoisse que les célibataires. Et quand il y a les malheurs de la vie, eh bien, ils ont un soutien affectif et ils s'en remettent mieux que les célibataires. Donc, si vous voulez aller bien, mariez-vous. Donc... Donc, alors, et puis il y a les expériences traumatiques avant qui n'ont pas été secourues, qui n'ont pas été aidées, comme les soldats français actuellement en Afghanistan ou au Mali. Ceux qui ont été aidés souffrent et ils deviennent résilients. Ceux qui n'ont pas été aidés souffrent deux fois plus. Ils ont été vulnérabilisés par un accident et le fait qu'ils ont été abandonnés est inscrit dans leur mémoire et ceux-là souffrent encore plus. Alors, on voit qu'il y a des acquisitions très précoces de ces facteurs de protection et que nous, politiquement, psychologiquement, humainement, on est responsable, on peut disposer des facteurs de résilience. On a un facteur de liberté et ce facteur de liberté nous responsabilise. On peut augmenter les congés parentaux, on peut demander au couple de faire un effort au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire à partir du 20e mois. Vous êtes malheureux ensemble, faites un effort jusqu'au 20e mois, le bébé en profitera. Et puis après, battez-vous, disputez-vous, allez divorcer, faites ce que vous pouvez, mais au moins pendant 20 mois, faites un effort. Le bébé sentira quand même quelque chose, mais il sera moins traumatisé. Alors, un enfant qui a acquis ses facteurs de protection acquiert les premiers l'accès au langage. Et là, maintenant, je quitte la biologie pour entrer. J'ai 20 mois, j'ai 20, 30 mois. J'entre maintenant dans la langue maternelle. Et or, lorsque les enfants des 10 mois, 12 mois ont acquis l'attachement confiant et l'aptitude à la mentalisation, lorsqu'on les met expérimentalement dans une pièce, il y a un adulte qui a pour consigne de ne pas dire un mot et de ne pas sourire. L'enfant rentre dans la pièce, il voit cet adulte, il a un petit stress, il s'approche de l'adulte, il lui fait un babil, il lui fait un sourire, il tire sur la manche, il tire sur la robe, souvent, sur la jupe, et il transforme l'adulte en bonne mère en 30 secondes. Parce que l'enfant, ayant acquis la confiance en lui, interagit, et c'est lui qui rend l'adulte bonne mère. Parce que c'est difficile de résister à un enfant. Il est souriant, il a un babil, il nous offre un morceau de son gâteau, ben voilà, on est séduit. On se laisse séduire. Et une fois qu'on est séduit, il nous a transformés en bonne mère. Et à ce moment-là, la résilience, c'est du gâteau. Alors, or, un enfant sur trois n'a pas acquis ce facteur de protection parce que sa mère est malade, parce qu'il y a eu une tragédie familiale, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a la précarité sociale, parce que les parents ne savent pas comment manger et où dormir le soir. Donc les parents sont insécurisants, pas à cause d'eux, mais à cause du malheur social, à cause de la précarité sociale. Les parents sont trop malheureux pour être sécurisants. Du coup, les enfants ne sont pas sécurisés. Et ces enfants-là, quand on les met en présence de l'adulte silencieux et sévère, les enfants ont peur de l'adulte et ils se mettent en périphérie. Ils évitent le regard, ils augmentent les activités auto-centrées, ils ne transforment pas l'adulte en bonne mère. Et ils restent insécurisés. On a raté un facteur de résilience. Et parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait ou bien aider les parents ou bien trouver un substitut parental pour sécuriser les enfants. C'est faisable, on ne l'avait pas compris ou on ne l'avait pas vu. On a eu tort. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. On peut sécuriser la mère parce que son mari est violent, le séparer, parce que la mère est malheureuse, parce qu'il y a la guerre, parce que la vie est difficile. On sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais on sait ce qu'il faut faire. Alors, on voit maintenant que c'est important d'agir sur le foyer. Or, dans les mères ont un privilège affectif. C'est-à-dire qu'en Suède, j'ai travaillé en Suède, et il y a quelques semaines, j'étais à Helsinki, où il y avait moins 25 degrés à Helsinki. Moins 25. Et il y a une ambiance chaleureuse. Peut-être parce qu'il fait moins 25, les gens sourient tout le temps, les gens se parlent gentiment, les enfants, il n'y a pas un cri dans les écoles. Les gens jouent, sourient, c'est paisible parce que les enfants sont ralentis. Ils sont sécurisés, ils n'ont pas peur des adultes, ils jouent tout le temps. Et quand quelque chose ne va pas, ils savent s'exprimer, ils savent le dire. Et il y a une ambiance chaleureuse dans un pays où il fait moins 25 degrés au-dessous de zéro. Expliquez-moi comment c'est possible, ça. C'est-à-dire que la culture des pays d'Europe du Nord, inspirée par les théories de l'attachement, a fait des réformes éducatives inspirées par les théories de l'attachement, et ils ont évalué les résultats, parce que c'est quand même des régimes où ça coûte cher de faire créer des métiers de la petite enfance, ça coûte cher de former les gens à l'attachement, c'est une formation. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps en Norvège, parce qu'ils sont quand même de culture américaine de plus en plus, hein, c'est des Nord-Européens, mais ils sont quand même de plus en plus de culture américaine. Donc s'ils donnent de l'argent, ben, il faut savoir ce que ça rapporte ensuite. Hein. Et ils ont fait, à propos des enfants, de leurs enfants, ils ont fait une évaluation financière de retour sur investissement. Alors ça, c'est peut-être un peu cynique quand on parle d'éducation. N'empêche qu'ils disent bien élever un enfant, développer l'attachement confiant chez un enfant, c'est une bonne affaire financière. C'est-à-dire, c'est cynique, mais je crois que c'est vrai. Alors, on a travaillé sur des jeunes mères qui avaient été très agressées dans leur enfance, des mères victimes d'inceste dans leur enfance. Et ces mères avaient ensuite eu un enfant avec un homme qu'elles avaient choisi. Et je leur avais, avec des gens de mon équipe, je leur avais demandé l'autorisation de filmer la première interaction de la jeune maman avec son bébé. Elles ont toutes refusé d'être filmées, mais donc on n'a pas filmé, mais elles ont accepté qu'on soit là, présent, et qu'on observe sans filmer. Ce qu'on a fait. Toutes, c'est une petite population, parce que ça a été difficile à trouver, mais on a trouvé 12 jeunes mères qui avaient été victimes d'inceste dans leur enfance et qui devenaient mères souhaitées, volontaires, à l'âge de 18, 20 ans, 22 ans. Or, toutes ces jeunes mamans avaient peur du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. Et elles étaient évitantes, distantes, raides. Et quand on parlait avec elles, on leur disait, mais on a l'impression que vous avez peur du bébé. Et elle disait, oui, c'est vrai, j'ai peur du bébé. Il venait de naître. Et quand on leur parlait avec elle et qu'on leur disait, mais comment peut-on expliquer qu'on a peur d'un bébé ? Toutes nous répondaient, si c'est un garçon, il sera un violeur. Si c'est une fille, elle sera violée. C'est-à-dire que ce qui était inscrit dans leur mémoire à cause du malheur de leur enfance, lorsqu'elles voyaient, lorsqu'elles percevaient le bébé, évoquaient le traumatisme passé, parce que personne n'avait aidé ces jeunes mamans. Or, dès l'instant où les gens avec qui je travaillais, non verbalement, mettaient la main sur l'épaule ou prenaient le bras de la jeune maman, elle était sécurisée par l'éducateur qu'elle connaissait ou l'éducatrice qu'elle connaissait. Dès que la mère était sécurisée, elle éprouvait le plaisir d'explorer son bébé et de jouer avec son bébé. Elle était réchauffée en 30 secondes par la présence sécurisante d'un éducateur. Quand c'est comme ça, c'est facile de déclencher un processus de résilience. Mais donc, il faut qu'on prenne conscience que c'est facile et qu'on prenne les décisions politiques et éducatives pour renforcer ces facteurs de protection. Alors, on voit que l'école, quand je suis un enfant, j'ai 79 ans, je vais bientôt faire mon adolescence, mais je suis un enfant d'émigré, et l'école, en France, quand j'étais enfant, c'est un facteur d'intégration. Les Espagnols de la guerre civile ont d'abord été mal accueillis en France, ils ont été mis dans des camps, gardés par les gendarmes français, et puis ensuite ils ont été bien accueillis par la France. Mais dans un premier temps, ils ont été mal accueillis. Les Juifs d'Europe centrale ont tous été tués, pendant la guerre par le gouvernement du maréchal Pétain. Et après la guerre, l'école a été un facteur d'intégration. Là, tous ces enfants d'immigrés ont été heureux à l'école. Ils ont été bons élèves et tous se sont intégrés, les Espagnols, les Italiens, les Juifs d'Europe centrale ont été bons élèves parce que l'école, c'était le lieu de l'intégration, c'était le lieu de la gentillesse, c'était le lieu où on parlait gentiment et où on apprenait des choses intéressantes. Ce n'est plus le cas en France aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, les enfants de pauvres représentaient à peu près 11 à 13% selon les facultés. Vous savez combien il y a d'enfants de pauvres aujourd'hui dans les facultés de médecine en France ? 1%. C'est-à-dire que l'école devient le facteur qui répète les inégalités et qui les entretient, alors que il y a une génération, l'école combattait les inégalités. Il y avait des inégalités, mais moins qu'aujourd'hui. Donc là, l'école a besoin de faire une réforme, ou alors on massacre les pauvres. Ça peut être aussi une politique. Il y a beaucoup de pays qui ont décidé cette politique. Alors on massacre les pauvres, et tant pis pour eux, ils vont rester pauvres toute leur vie, et la pauvreté se transmet à travers les générations. Il y a des politiques qui sont faites comme ça. Mais c'est des politiques explosives, parce que les pauvres ne sont pas heureux, et à la moindre défaillance culturelle, il peut y avoir des graves explosions sociales. Ou bien on décide de faire des réformes éducatives, comme l'ont fait les pays d'Europe du Nord, comme le font les Brésiliens, comme ne le font pas les Coréens, comme ne le font pas les Japonais, alors que je rentre du Japon, où l'école est une forme de maltraitance, ils le disent eux-mêmes, ils me l'ont expliqué. Eh bien là, il y a une bombe à retardement sociale qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a une inégalité sociale. Les enfants de pauvres sont voués à rester pauvres et à vivre difficilement. Et ça pose un autre problème politique, c'est que plus on fait la sélection scolaire tôt, plus on renforce les inégalités sociales. Et on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de passerelles dans les universités. Alors là, c'est une bonne réforme française. Et il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent en Espagne faire leurs études dans le cadre d'Erasmus. Et ils sont heureux. Et ils se plaisent en Espagne. Et alors que dans les universités françaises, maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de passerelles, mais moins qu'aux États-Unis, moins qu'au Québec, où au Québec, au Canada, par exemple, une infirmière peut devenir professeur d'université. J'en connais. En France, c'est impossible. Le barrage est impossible. Un éducateur peut devenir professeur d'université en Belgique, pas en France. Donc, il commence à y avoir des réformes éducatives pour l'école, pour l'université, et on peut les évaluer. Alors, l'idée que je propose, c'est que finalement, l'attachement, qui est un facteur de protection, la mentalisation, qui est un facteur de protection, on peut décider intentionnellement, politiquement, de faire des politiques éducatives qui vont renforcer la protection et en cas de malheur, qui vont faciliter la résilience. Et si on ne le fait pas, eh bien on est responsable, on est coupable de ne pas l'avoir fait. Alors pour ça, il faut expliquer à nos politiciens, à nos décideurs. Alors j'ai fait partie en France de la commission Attali, et j'ai vu que vous l'aviez invitée. Je connais rien. La commission Attali, c'était pour proposer des réformes au gouvernement de notre ancien président. Je connais rien en économie. Et quand j'assistais aux réunions et que les économistes parlaient entre eux, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Mais j'avais trois rapports à faire. L'interaction précoce que je viens de vous résumer, le développement des neurosciences, et la maladie d'Alzheimer, qui est en train de se développer énormément. Et là, j'ai réussi à faire croire que j'avais deux ou trois connaissances. Et au moment où on a remis ce rapport à notre ancien président, il s'appelait Sarkozy, je ne sais pas s'il a été connu en Espagne, mais pendant que j'ai parlé le premier, puisque je parlais des interactions précoces, et pendant que je faisais mon rapport, il était en train de tweeter et de faire ses messages. Donc j'en ai conclu que je l'ai moyennement intéressé. Et ensuite, il a été voir Jacques Attali et il lui a dit « Je ne comprends pas ce que les bébés ont à faire dans l'économie. » Parce que je n'ai pas eu le talent de le convaincre que c'est une bonne affaire de s'occuper des bébés, c'est une bonne affaire de protéger le couple parental. C'est une bonne affaire de... Un enfant malheureux, un enfant désocialisé va être malheureux, va rendre sa famille malheureuse et va coûter très cher à l'État. Un enfant sécurisé va être heureux à l'école, il va apprendre un métier, il va être heureux, mais il aura sa part de malheur dans la vie comme tout le monde, il aura ses coups comme... Il résistera mieux et il redémarrera mieux après le malheur. Il rendra moins malheureux sa famille qui va le soutenir. Il va s'en sortir, il va connaître un bon processus de résilience et ça coûtera moins cher à l'État. Alors voilà, je n'ai pas réussi à convaincre Sarkozy qu'il fallait faire ça. S'il y a des gens dans la salle qui le connaissent, vous envoyez des lettres anonymes à Sarkozy pour que... Maintenant, c'est trop tard. Mais donc, alors, on voit que donc, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Lorsque on reprend un bon développement résilient après une agonie traumatique, ça veut pas, on ne redevient pas comme avant. C'est pour ça que j'emploie jamais le mot guérison. D'abord parce que ces enfants, ces adultes traumatisés, ils ne sont pas malades, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il y a du malheur autour d'eux, parce qu'il y a du malheur en eux. Ce n'est pas des malades. Donc j'emploie pas le mot guérison. Alors, même quand on les entoure bien, ils reprennent un bon développement, ils n'oublient jamais ce qui leur est arrivé. Mais ils ne se soumettent pas à la blessure. Ils savent qu'ils peuvent s'engager, ils peuvent témoigner, ils peuvent écrire, ils peuvent devenir artistes, ils peuvent rentrer dans une association. Ils ne sont plus passifs. Ils peuvent s'engager et participer à un processus de résilience. Et là, bien sûr, beaucoup de ces enfants traumatisés deviennent psychologues ou psychiatres ensuite, ce qui prouve quand même qu'il y a de graves séquelles. Mais ils ont fait quelque chose de leur blessure. Ils ne se sont pas soumis à la blessure. Ils n'ont pas oublié. Ils se sont engagés. Ils n'ont pas oublié. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même toute notre vie, on a été sensibilisés. C'est quand même peut-être un facteur de vulnérabilité qui reste toute notre vie. Mais on s'est affronté. On n'est pas soumis. On peut écrire une pièce de théâtre, on peut rentrer dans une association, on peut ne pas se soumettre à sa blessure. Mais une trace de vulnérabilité fréquente, c'est que ces enfants deviennent psychologiquement mûrs, matures, trop tôt. Quand on les aide à déclencher un processus de résilience, ça souvient souvent c'est des petits vieux. Et on voit par exemple en France, chez les Français d'origine maghrébine, qui ont sauvé la France, les Maghrébins ont libéré le sud de la France. Quand j'étais enfant, il y avait les spahis algériens et les spahis marocains, ils étaient merveilleux. Ils étaient blancs et verts, ils ont remporté la bataille de Monte Cassino, ils ont libéré Toulon, ils ont libéré Marseille, et on les vénérait. Et ensuite, ils ont été exploités par l'industrie française et par leurs familles algériennes parce qu'ils envoyaient tout leur argent en Algérie et ils vivaient comme des grands pauvres. Et quand leurs enfants sont arrivés en France, ces hommes-là, exploités par l'industrie française et par leurs propres familles, étaient insécurisants pour leurs enfants parce qu'ils ne parlaient pas français alors que ça faisait 30 ou 40 ans qu'ils étaient en France, parce qu'ils n'avaient fait que travailler et parce qu'ils n'avaient fait que donner tout ce qu'ils gagnaient à leur famille, à leur femme. Et la culture française, en les accueillant ainsi, en avait fait des parents insécurisants. Et on a le paradoxe de la deuxième génération, que ne comprennent pas les Français, parce qu'ils disent on accueille la deuxième génération dans nos écoles, on leur donne des bourses, ce qui est vrai, et ils sont agressifs avec la France. Et c'est là qu'on trouve les indicateurs de mal-être, de non-résilience. Et c'est la deuxième génération qu'on le trouve. Parce que la première génération qu'on a exploitée n'a pas dit un mot. Ils ont souffert en silence. Ils n'ont pas dit un mot. On les a empêchés de déclencher un facteur de résilience qui aurait sécurisé leurs enfants et il n'y aurait pas eu le paradoxe de la deuxième génération. Mais en massacrant ces hommes, en les exploitant, ils ne se sont pas plaints, ils ont souffert sans se rebeller, sans dire un mot. Ils sont devenus insécurisants pour leurs enfants et c'est leurs enfants qui protestent. Donc il y a un contresens entre la culture française et les Français de deuxième génération d'origine maghrébine. Et on voit des petites filles de 10 ans qui, elles, parlent bien français, qui, elles, ont tout compris de l'école, des rituels. Et c'est ces petites filles qui prennent en charge la famille, les parents, qui remplissent les papiers, qui vont chercher le petit frère à l'école. Et c'est ces petites filles de 10 ans qui font tout. On les admire, on a tort. Elles ont 10 ans, elles doivent jouer et aller à l'école. C'est leur rôle social. Leur rôle à 10 ans, c'est pas de faire les papiers de papa et maman, c'est pas de prendre en charge papa et maman. À 10 ans, on joue et on va à l'école. Alors, on voit qu'il y a des contresens entre les cultures parce qu'on n'a pas assez travaillé les processus de résilience. Alors, je vais terminer en disant que maintenant, on a quitté la biologie, on a quitté l'affectivité et on va rentrer dans les récits. Et là, il y a la manière dont on parle du traumatisme peut être un facteur de résilience ou empêcher la résilience. Si, par exemple, si vous me faites taire, par exemple, les femmes violées, si les femmes ont été violées, c'est sûrement qu'elles ont provoqué le violeur. C'est un stéréotype scandaleux qu'on entend encore aujourd'hui. Et que les femmes agressées sexuellement, elles-mêmes prononcent parfois. Elles disent elles-mêmes, sans le faire exprès, j'ai dû le provoquer, parce qu'elles ont intériorisé le stéréotype de la culture. c'est un scandale. Parce que non seulement elles sont agressées sexuellement, mais elles sont rendues responsables de l'agression qu'elles ont subie. Comment voulez-vous qu'elles déclenchent un processus de résilience ? On les fait taire et on les rend coupables, alors qu'elles sont victimes, et on les rend coupables. Donc on empêche la résilience avec cette phrase tragique. Il y a aussi une autre phrase tragique, c'est « un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant ». C'est un crime. Cette phrase est un crime. D'abord parce que c'est faux. C'est pas, quand on fait des études scientifiques avec des sociologues, avec des neurologues, on constate que dès que on sécurise les enfants maltraités, ils recommencent un processus d'abord neurologique de résilience. Et si on leur donne la parole et si on les soutient, ils ne deviendront jamais des parents maltraitants. Et on le sait parce qu'on a fait des études longitudinales, des suivis sur des populations de 1000 enfants maltraités qui ont été suivis pendant 30 ans. Si c'est, d'abord, si on ne les suit pas, ils ont été maltraités, on les met dans des institutions et on ne s'occupe pas d'eux. 30% de ces enfants, en effet, deviennent des parents maltraitants. C'est 15 ou 20 fois plus que la population générale. C'est quand même 70% qui ne répètent pas la maltraitance, mais qui entendent le récit autour d'eux. Toi, tu as été un petit garçon maltraité, donc si par malheur tu te maries et si par malheur tu as des enfants, tu seras un père maltraitant comme ton propre père. J'ai suivi des petits patients qui pensaient au suicide. Je crois qu'il y a eu des suicides à cause de cette phrase. C'est cette phrase qui est une malédiction. Lorsque on a suivi ces enfants maltraités, durablement, très altérés, on les a suivis dans des institutions qui appliquaient les principes de la résilience. On travaille avec eux. On a fait un suivi avec l'aide de sociologues. On a fait un suivi pendant 30 ans. Vous savez combien d'enfants maltraités devenus pères ou mères, vous savez combien ont répété la maltraitance ? Zéro. Aucun n'a répété la maltraitance. C'est-à-dire que ce qui provoquait la répétition de la maltraitance, c'était la malédiction des phrases et l'abandon des enfants maltraités. Dès qu'on les sécurisait, dès qu'on les éduquait et dès qu'on leur expliquait les principes de la résilience, aucun ne répétait la maltraitance. Zéro. Alors, donc, il y a des méthodes éducatives et il y a des manières de parler de la souffrance de ces enfants qui permet d'empêcher le processus de résilience ou de le faciliter. Si on dit à une malédiction, tu vas devenir un père maltraitant, ils ont peur de l'amour dont ils ont besoin. Et si par malheur ils tombent amoureux, ce qui peut arriver, hein, si par malheur ils ont peur de l'amour, on a beaucoup parlé avec eux, ils ont un énorme besoin affectif et ils sont terrorisés par l'affectivité. Donc il leur arrive d'agresser le garçon ou la fille qu'ils aiment, ils sont ambivalents parce qu'ils ont un besoin. Ils surinvestissent tellement l'affectivité qu'ils veulent des preuves d'amour. Alors ils agressent la jeune femme ou le jeune garçon qu'ils aiment pour que le garçon leur dise « tu m'agresses, mais je t'aime quand même ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ils se rendent encore plus malheureux. Psychologiquement, on peut agir, là, avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'éducateurs, on peut leur expliquer que ce n'est pas une bonne méthode relationnelle. Donc on peut agir. On a un degré de liberté. Donc ces méthodes éducatives sont certainement plus, déclenchent l'acquisition de facteurs et des processus de résilience, certainement plus que les méthodes instructives. L'école croit qu'elle est trop instructive, alors qu'en fait elle est bien plus éducative, à condition que l'art, la peinture, le théâtre, le sport entrent dans l'école en tant qu'éducation. Et quand j'étais à Helsinki, par moins 25 degrés au-dessous de zéro, il y avait parmi les fonctions éducatives, il y avait la cuisine. Parmi l'art, il y avait des cours de cuisine à l'école et les garçons faisaient des performances extraordinaires. Et les garçons et les filles cuisinaient et ils faisaient des concours de plats. Et en faisant des concours de cuisine, ensuite, ils s'invitaient. Ils mettaient la table. C'était charmant. Et c'était bon. Et c'était des gosses qui avaient 13-14 ans. L'école avait une fonction éducative. Et dans la parité, homme-femme, ça jouait un rôle tout à fait important. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient le plaisir ensemble et ils le partageaient. Je souligne le mot « partager » parce que le deuxième récit, c'est le récit partagé. Si vous me faites taire, il m'est arrivé un malheur. Vous ne me croyez pas. Ou j'ai été violé et vous me dites « tu l'as bien cherché ». Vous me rendez coupable du malheur qui m'est arrivé. Je me tais, je suis malheureux. Je répète, je rumine. Vous avez aggravé mon syndrome psychotraumatique. Vous avez empêché ma résilience. Si, au contraire, vous m'invitez au partage verbal ou au partage émotionnel d'un plat cuisiné, d'un jeu, d'une pièce de théâtre, d'une expédition de tourisme, au partage verbal ou affectif. Je suis plus seul au monde. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas, mais je vois que vous cherchez à me comprendre. Puisque vous me regardez quand je parle, vous hochez la tête quand je parle. Elle sourit quand je parle, donc je vois bien qu'elle cherche à me comprendre. Donc, je suis plus seul au monde, puisque je vais travailler, je vais chercher à vous convaincre, vous dire ce qui se passe en moi. Je ne suis plus seul au monde, parce que sans dire un mot, elle m'a invité à la parole. Elle m'a soutenu. Merci. Elle m'a soutenu. Donc, dès l'instant où un récit est partagé, un processus de résilience se met en place. Il n'y aura qu'à travailler. Et ensuite, le dernier récit, c'est le récit culturel. Alors, on sait par exemple qu'en France, les Juifs survivants, après la persécution des Juifs d'Europe, où sur un peuple de 9 millions d'habitants en Europe, 6 millions ont été tués en un peu plus de 2 ans. Pendant 40 ans, en France, il a été à peu près impossible d'en parler. C'est-à-dire qu'il y avait des récits publics, mais c'est fini tout ça. La culture française a pratiqué le déni pour se soigner elle-même en faisant taire les survivants. Allez, c'est fini tout ça. Allez, on parle d'autre chose. Parce que c'était désagréable de prendre conscience que la France avait collaboré, le gouvernement français avait collaboré avec les nazis. Le gouvernement de Vichy a collaboré. C'était un souvenir désagréable. De même que la guerre d'Algérie. En France, on a encore du mal à en parler. C'est encore difficile d'en parler. Ce n'était pas une guerre, c'était une opération de police. 200 000 morts chez les Algériens, ça fait chiant pour une opération de police quand même. Donc, mais on ne pouvait pas en parler. Le déni protégeait la culture française et on ne pouvait pas parler de ça parce que c'est vrai que c'était difficile à dire. Donc le déni culturel a empêché le processus de résilience chez ceux qui ont fait la guerre d'Algérie ou sur les survivants juifs de la Shoah. Et on travaille avec des psychosociologues, j'ai fini, on travaille avec des psychosociologues qui montrent comment, qui ont fait des enquêtes sur qui vous a aidé après votre malheur, votre traumatisme. Les médecins, les psychologues, 0,4%. Ce ne sont pas des tuteurs de résilience. Les prêtres, quelle que soit la religion, un peu plus. Les principaux facteurs de résilience, ça a été les éducateurs, les artistes et les sportifs. Et quand j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, il y a des favelas de 200 000 habitants, j'ai une de mes élèves, Sandra Cabral, qui est devenue professeure à Rio de Janeiro, qui est une ville merveilleuse. Je suis amoureux de Rio, mais je suis aussi amoureux de Barcelone. Mais Rio, c'est une ville merveilleuse. J'ai accompagné Sandra dans les favelas de 200 000 habitants. Avant, les gouvernements envoyaient la police et l'armée pour faire régner la paix. La fierté des garçons, plus que des filles, c'était de se battre et d'affronter la police. T'as vu comme j'ai été courageux, t'as vu ce que j'ai... Leur fierté, c'était de se bagarrer. Maintenant, ils ont changé de politique, ils envoient des footballeurs, des musiciens et des danseurs. Vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur ? Moi, j'en connais pas. Le footballeur arrivé, tous les petits garçons arrivés. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste ? Moi, j'en connais pas. Donc, et les enfants, accourent, quand ces éducateurs artistiques ou sportifs arrivent, les enfants accourent pour parler. Et ensuite, une fois que le lien a commencé à être tissé, le sportif, l'éducateur dit « Tu joues bien au football, tu as bien appris la musique de Jean-Sébastien Bach. » Ce que j'ai vu, les musiciens apprennent dans les favelas ces gosses immensément pauvres. Ils leur apprennent la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors les enfants apprennent très vite. Et puis, bien sûr, ils transforment très vite. Jean-Sébastien Bach devient très vite un air de samba. Mais enfin, on est au Brésil, hein, donc... Et Jean-Sébastien Bach en samba, c'est très beau, c'est très très bien. Et ces enfants-là, 50% de ces enfants ont été scolarisés en moins de 5 ans de cette nouvelle politique éducative plus que instructive. Et les enfants, maintenant, vont à l'école au lieu d'éprouver la fierté de se battre contre la police ou contre l'armée. On a évalué. Donc voilà les quelques idées que je voulais vous proposer pour dire que finalement, on est responsable de ne pas appliquer les principes de la résilience, puisque maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Il ne reste plus qu'à convaincre les décideurs politiques de nous aider à le faire. Merci beaucoup de m'avoir invité.